Donc merci à Bruno Bonnet-Brinuval de nous avoir présenté le travail, on va dire, côté coordination aussi, nous rappeler que c'est un travail collectif. Bien sûr, on s'en doute lorsqu'il y a un artiste et un auteur, mais derrière, il y a tous ces artisans qui sont là. Avant donc de vous présenter le film de François Reichenbach, qui est une sorte de double cinématographique des Signes sauvages, du Waybook de Kenneth White. Je voudrais donc profiter de la. C'est pour ça que ça prend sa place dans ces journées. La parution d'une édition rare d'un des livres emblématiques de Kenneth White, Les Signes sauvages, aux éditions Les Altores, pour vous donner un aperçu de l'œuvre, mais aussi du rapport, même s'il y a beaucoup à dire et plus longuement, là je serai plutôt bref, de l'œuvre à l'Asie et notamment au Japon. Alors pour parler. Pardon. Pour commencer à parler de façon générale de l'œuvre de Kenneth White, j'aimerais citer un de ses amis et pairs en poésie, Gary Snyder, qui écrit à propos de lui, je le cite: Quel autre poète nous donne une telle clarté, une telle ouverture, une telle pureté de l'esprit, un extrême nord de l'âme, un chemin sans chemin? Alors bien que les mots de pureté et d'âme puissent résonner différemment en français, et que Kenneth White ne les reprenne guère, les propos de Gary Snyder condensent parfaitement ce qu'il y a à dire sur l'œuvre de l'auteur des Signes sauvages. Aussi voudrais-je vous donner quelques éléments d'appréciation de l'œuvre en commençant par la situer dans un espace qui est autant mental que géographique. L'espace des Signes sauvages est donc le Japon, dont le seul nom convoque tout un flot d'images qui le rattachent à l'Asie dans son ensemble, à l'Orient de façon plus large et, bien entendu, à la singularité culturelle du pays. Ce qu'il nous faut toucher pour tenter de saisir ce que Kenneth White a visé dans ce livre, c'est le vaste mouvement culturel occidental qui s'est étendu, disons, de la fin du XVIIIe siècle jusqu'à la fin du XXe siècle, autour de la découverte des pensées de l'Asie et de leur réception par les esprits occidentaux. En 2 siècles, de nombreux auteurs et artistes se sont intéressés à l'Orient, nom donné à une Asie souvent fantasmée et vue depuis l'Occident soit comme une terrible menace, soit comme notre seul et dernier espoir. On connaît assez les conséquences néfastes de ces visions pour ne pas avoir à y revenir ici. Kenneth White fait partie de ceux qui ont cherché dans la vaste culture asiatique des éléments propres à nous rappeler des chemins oubliés. C'est ça le nomadisme intellectuel. Son mérite en la matière est donc d'avoir élaboré cette méthode, le nomadisme intellectuel, idée, alors pour préciser, idée selon laquelle toutes les cultures, il appelle culture les habitudes acquises dans une certaine sédentarité, toutes les cultures sont partielles et que pour arriver à un champ de culture complet, il faut nomadiser d'une culture à l'autre en prenant ici ce qui peut manquer là. Les recueils poétiques de White, Mahamudra, le grand geste en 1979, Scène d'un monde flottant en 1983, Terre de diamants, même année, mais aussi ses récits, Le visage du vent d'Est 1980, Les signes sauvages 1990, ou encore ses essais, La figure du dehors 1982, Hokusai ou l'horizon sensible 90, sont gardés, tous ces ouvrages ont gardé de l'Asie une trace évidente. Mais il n'est pas une œuvre, fût-elle en apparence sans rapport avec l'Asie, qui n'y fasse référence pour élargir l'horizon. De son usage du monde asiatique, Kenneth White a retenu des lignes forces qui peuvent se résumer à l'esthétique instantanéiste du haïku, voici en plein Japon, et d'autre part, une vision de l'univers et de la conscience universelle, comme je le cite dans la figure du dehors, comme un réseau de cristaux dans lequel chaque cristal reflète tous les autres. Il est impossible de s'intéresser à l'Asie sans aborder ses religions. Mais White le fait en nomade intellectuel. Il vise, je le cite, une pensée rapide, presque insaisissable, liée à la terre. Cette volonté d'ancrage radical, à la racine, hein, lui a notamment fait préférer les bouddhismes chinois ou japonais au bouddhisme indien. Dans L'Ermitage des Brumes, il confie: Pour ouvrir un nouveau terrain, je me suis dit de mon côté, il y a longtemps, qu'il fallait désindouiser le Vedanta, désiniser le Tao, déjaponiser le Zen. Son rapport aux religions n'est ni sectaire, ni naïf. Il ne s'agit pas d'imiter ni de suivre ceux qui marchent sur la voie du vide, précise-t-il à l'égard de tous ceux qui se cherchent un maître, un gourou, un swami, mais d'aller le plus simplement, le plus originalement possible son chemin. Le nomade intellectuel choisit ce qui lui convient dans les traditions auxquelles il se réfère. Je cite la figure du dehors. J'aime à garder ensemble bouddhisme et taoïsme, écrit-il, la logique bouddhique empêchant le taoïsme de céder à la magie et le taoïsme empêchant le bouddhisme de devenir trop orthodoxe. C'est une sorte de gai savoir qui, là, reconnaît-il, aidait à faire un nettoyage mental, à se débarrasser l'esprit de toutes sortes de lourdeurs religieuses, métaphysiques, morales. Cette défiance envers toute orthodoxie sédentaire lui fait ainsi dire, alors qu'il voyage à travers le Hokkaido, qu'après tout, Basho, le maître du haïku, c'était une voie poétique profondément ancrée dans le réel qu'il suivait et propageait, plutôt que la pure voie du Bouddha. Et si White fait sienne la conception du voyage zen qui consiste à, je cite, « porter dans son cœur le mouvement du ciel, tout en jouissant du monde, en étant capable de le considérer comme intéressant, beau et radieux », bien, c'est parce qu'il se méfie du zen lui-même. J'aimerais en quelque sorte sortir le zen du bouddhisme et le relier à un sol plus primitif. Et il pense au Shinto. S'il est désormais question de retrouver une unité, ce n'est plus celle de l'être, mais celle du vide. Je cite une apocalypse tranquille. Le vide, bien sûr, n'est pas le néant. Le néant provient d'une crise d'identité de l'être. Le vide surgit quand on pense l'être jusqu'au bout et qu'à la place de l'identité, on trouve un flux d'énergie. C'est quand les coupures que nous pratiquons dans le monde n'ont plus cours, quand le monde retrouve son unité, sauvage ou chaotique, que nous pouvons en savourer une perception pleine et vive. Une pensée liée à la terre, un nouveau terrain, une perception pleine et vive du monde, on sent poindre la géopoétique, dont le plateau de l'Albatros exposera l'introduction en 1994. Si toute l'œuvre de Kenneth White n'est pas géopoétique, tout y mène et tout en procède. Pour en dire quelques mots, les premiers mots, on en aura l'occasion d'en reparler, pour en dire quelques mots, le terme géopoétique est composé de deux parties où géo fait référence à tout ce qui est terrestre, aux éléments et à tous les êtres animés et inanimés. Le sens du radical poétique est plus large que le seul rapport à la poésie. Je pense que vous l'avez déjà perçu dans les différents propos qui ont été tenus ce matin et puis dans les propos de Kenneth White. Il est plus large que le seul rapport à la poésie et même à une certaine poésie tournée vers le monde naturel. En accolant poétique à géo, on met en évidence la capacité du monde naturel à créer de lui-même, de partout et de tout temps. La capacité du monde naturel à créer de partout et de tout temps. Dans la géopoétique, les sciences d'observation et les sciences conceptuelles retrouvent l'expression philosophique et artistique. Il s'agit non seulement de percevoir, de comprendre et d'aimer les manifestations de la complexe beauté du monde, mais aussi pour les géopoéticiens, de trouver dans la nature des modèles permettant de faire naître une culture nouvelle qui rétablirait les liens très distendus, voire rompus, entre l'humain et le monde naturel, non seulement pour que l'humanité survive, mais pour qu'elle vive plus pleinement. Soyons ambitieux. L'origine de la géopoétique mérite qu'on s'y attarde. Elle est liée, comme je viens de laisser entendre, au constat que l'humanité moderne est coupée du monde naturel. Pourquoi et comment faire en sorte de rétablir ces liens, s'est demandé Kenneth White. Pourquoi ? Parce que, au-delà de l'évidence du grand malaise dans notre civilisation, il apparaît que le seul point commun possible à tous les humains, à l'époque contemporaine, n'est plus la religion, qui divise tant et plus, ni le mythe que la science a rendu inopérant pour notre mentalité, l'histoire avec une majuscule, avec la croyance au progrès qui a réussi à doter l'humanité d'une puissance destructrice qui dépasse de loin sa sagesse. Le seul point commun est le rapport à la Terre. Il s'agissait donc de comprendre quand et comment les choses avaient pu mal tourner. White a fait une analyse de la culture, qu'il appelle parfois une culture-analyse, qu'il a appelée aussi nomadisme intellectuel. Cette méthode, inspirée des grands analystes de l'histoire culturelle de l'humanité, comme Arnold Toynbee, a consisté à étudier les civilisations du passé, en remontant jusqu'à la préhistoire, à identifier leur rapport à la Terre et ce qui en limitait la force, puis à prendre dans celle-là ce qui manquait dans celle-ci afin de concevoir une nouvelle culture. White a fait cela en voyageant par les livres et les œuvres d'art, on trouve ses réflexions dans ses essais, mais aussi très souvent en voyageant dans les lieux où se sont épanouies ces civilisations, c'est l'objet de ses nombreux waybooks, qui sont des récits de voyage d'un genre nouveau. Des waybooks dans lesquels, des récits de voyage dans lesquels le nomade intellectuel part explorer un espace géographique et culturel, l'esprit ouvert aux rencontres, quelles qu'elles soient, à la recherche d'un gai savoir. Son premier waybook est consacré en 1980 à l'Asie continentale avec le visage du vent d'Est. Le suivant, La Route bleue, en 83, est consacré au monde amérindien du Labrador, avant de revenir à l'Asie, cette fois insulaire, avec le Japon, des signes sauvages dont bien des traits lui rappellent l'Écosse. La source des signes sauvages, comme celle de la géopoétique, est très précoce dans l'œuvre de Kenneth White et remonte à l'enfance et à l'adolescence sur la côte ouest de l'Écosse pour ce qui en est des sensations. Mais du point de vue des faits, ce voyage au Japon a eu lieu en 1983 dans les dispositions suivantes. Depuis quelque temps, l'idée mûrissait dans mon esprit d'une virée au Japon, qui serait un pèlerinage géopoétique de plus, un hommage aux choses du Japon, choses précieuses et précaires, et un voyage haïku dans le sillage de Bashō, un récit rêveur de routes et d'îles, un plongeon elliptique dans le vide. Bref, un petit livre nippon extravagant, plein d'images et de pensées zigzagantes, écrit dans le style blanc volant, comme disent les peintres. Les waybooks de White, ou livres du chemin, commencent la plupart du temps, pour des raisons pratiques, dans les grands centres urbains et les signes sauvages ne fait pas exception. Mais Tokyo ne lui plaît guère. Tokyo n'est pas une cité, c'est une calamité. Car il n'y voit que façades criardes, derrière lesquelles il suppose bien l'autre Japon, sans cependant le découvrir. Seule la section Ainu du musée national l'enchante. Rien de moins urbain que leur relation intime avec les saumons, les ours, les baleines, les oies et les cygnes ou avec l'os et la pierre, écrit-il. Ce sera la boussole de son voyage haïku. Et faire un voyage haïku, c'est voyager mentalement non seulement dans le sillage de Bashō, mais en adoptant un style particulier, celui du poète japonais de la fin du XVIIe siècle, prenant le chemin du Nord, cette direction au statut particulier dans la culture japonaise, un statut de frontière. Je cite les signes sauvages. L'idée du voyage zen, ou disons du voyage méditatif, était de se laisser aller avec les feuilles et le vent, de dériver sans attache. Cela impliquait de vivre dans le fuga, fu, le vent, ga, le beau, c'est-à-dire avec le sens de la beauté éphémère. Cela impliquait de porter dans son cœur le mouvement du ciel, tout en jouissant du monde, en étant capable de le considérer comme intéressant, beau et radieux. Dans le long et magnifique livre-poème Le Grand Rivage, qui date de 1977, écrit en 3 semaines de l'année 1967 en Écosse, White avait déjà une approche semblable. Je le cite. Je vis à l'estime et j'écris, mais je n'oublie pas que du hasard de la vie, du hasard, l'essentiel toujours surgit. Ce voyage haïku mène donc White au nord vers le Hokkaido, poursuivant l'itinéraire de Bashō, qui, malade, dut faire demi-tour à Kisagata. Je laisserai celles et ceux qui n'ont pas encore eu la joie de lire ces pages découvrir ce qui s'y joue. Preuve que le nomadisme intellectuel permet de garder sa liberté par rapport aux diverses cultures, Le portrait historique du Hokkaido de Basho dans Les Signes sauvages évoque fortement la situation de la mer Noire lorsque le poète latin Ovide s'y trouva exilé. Ces contrées furent, l'une et l'autre, pour leur époque, au bord de la carte et considérées comme des pays barbares. Or, le pays barbare, comme vous savez, est celui qui fait entendre une langue incompréhensible, si l'on s'en tient à l'étymologie grecque. Donc, ces lieux, ces limites, ces frontières, sont des lieux privilégiés pour un nouveau rapport au monde qui est précisément la recherche de Kenneth White avec la géopoétique. Alors, c'est Ovide qui décide de se mettre farouchement à l'écoute de l'univers, après avoir été banni de l'Empire, est un esprit qui a laissé l'Empire, comme Basho a laissé Yedo, et qui se montre attentif aux signes sauvages. Ce qu'il faut comprendre avec l'homophonie entre signes, avec un i et avec un y, ces signes qui s'envolent, c'est qu'il est question que de davantage que d'une métaphore. Ni le moi, ni le mot, mais le monde, écrit White, monde dont il faut non seulement apprendre à lire les signes, le langage à l'extérieur, mais aussi en nous-mêmes, comme partie de la totalité à la recherche d'un champ de correspondance, le champ du grand travail. Les Signes sauvages constituent ainsi une de ces œuvres qui nous mènent d'un champ saturé par les signes, Tokyo, un monde clos où les signes renvoient aux signes dans un système de miroirs, donc qui nous mène d'un champ saturé par les signes à un champ ouvert aux limites, ici le Hokkaido. Ce livre est aussi un appel à, je cite White, un appel à des esprits qui essaient de coordonner et de concentrer ce champ, qui restent réceptifs aux signes sauvages et qui savent voler. Je vous remercie pour votre attention. Donc, comme je vous l'ai dit, le film qu'on va vous présenter maintenant, je pense que je vais avoir besoin peut-être d'aide pour qu'on puisse écarter les différents objets qui gênent un peu le bon visionnage du film. Ce film a été réalisé au Japon, vous allez voir un peu l'itinéraire, pour un peu comme un double cinématographique du Weibook. Voilà, donc je vais vous laisser le découvrir. C'est un film de François Reichenbach qui s'intitule Le chemin Japon, les chemins du Nord profond. Mais bon, on a le temps. On a, tu, on, voilà.